L'Atréide est-il prêt ? Demanda Phaedrotha selon l'ancien rituel de rétribution.
Paul choisit de lui répondre selon la tradition frémène. Puisse ton couteau s'effriter !
Et il désigna la lame de l'empereur sur le sol, indiquant à Phaedrotha qu'il pouvait venir la prendre. Sans le quitter des yeux, Phaedrotha s'avança, saisit l'arme et la balança un instant entre ses doigts pour en éprouver le contact. L'excitation montait en lui. C'était le combat dont il avait toujours rêvé, d'homme à homme, un affrontement où les boucliers n'intervenaient pas, où seul jouait l'habileté. Et ce combat pouvait lui donner la puissance, car l'empereur récompenserait certainement celui qui tuerait ce duc si gênant. Il se pouvait même que la récompense fût constituée par sa hautaine fille et une partie du trône. Et ce duc bandit, cet aventurier, ne pouvait être un adversaire sérieux pour un Harkonnen qui avait connu le combat dans un millier d'arènes et qui avait été entraîné à toutes les armes et à toutes les feintes. Ce manant ne pouvait savoir qu'il allait affronter d'autres armes que ce simple couteau. « Voyons si tu es à l'épreuve du poison », se dit Phaedrotha. Il salua Paul avec la lame de l'empereur et dit « Fou, regarde la mort !»« Allons-nous combattre enfin, cousin ?» demanda Paul. Et il s'avança comme un chat, les yeux fixés sur la lame de son adversaire, le corps ployé, pointant son cris à l'éclat laiteux qui semblait en cet instant un prolongement naturel de son bras. Ils tournèrent en s'observant, guettant la plus petite ouverture, leurs pieds nus crissant parfois sur le sol.
« Tu danses bien, » dit Phaedrotha.
« Un bavard, » songea Paul. « Autre faiblesse. Le silence le met mal à l'aise.
« As-tu reçu l'absolution ?» demanda Phaedrotha.
Paul continua de se déplacer en silence. Au premier rang, la vieille révérende mère se mit à trembler. Le jeune Atréide avait appelé « cousin » l'Harkonnen. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il connaissait son ascendance, et cela était facile à comprendre puisqu'il était le Kwisatz Haderach. Mais ce simple mot prononcé par Paul lui faisait prendre conscience de la seule chose qui importait pour elle. Ce qui se passait ici pouvait être une catastrophe pour le plan de sélection Bene Gesserit. Elle avait entrevu ce que Paul avait compris, que Phaedrotha pouvait le tuer mais sans être victorieux. Et une autre pensée lui vint qui submergea presque son esprit. Là, devant elle, deux produits de ce long et coûteux programme de sélection étaient engagés dans un combat où ils pouvaient laisser la vie, l'un comme l'autre. Si tous deux mouraient ici, il ne resterait plus qu'une fille bâtarde de Phaedrotha, un bébé, un facteur inconnu, et Alia, cette abomination.
« Peut-être que vous ne connaissez que les rites païens ici, » dit Phaedrotha. « Veux-tu que la diseuse de vérité de l'empereur prépare ton âme au voyage ?»
Paul sourit tout en se portant sur la droite, les muscles tendus, ses sombres pensées repoussées par les impératifs de l'instant.
Phaedrotha bondit. Feinta de la main droite, mais en un éclair, passa la lame dans sa main gauche.
Paul se déroba facilement et nota la brève hésitation de Phaedrotha, due à l'habitude du bouclier. Brève hésitation qui indiquait que Phaedrotha, pourtant, n'avait pas toujours combattu avec le bouclier, qu'il avait dû affronter, du moins, des adversaires qui n'en avaient pas.
Est-ce qu'un Atréide court au lieu de combattre ? Demanda Phaedrotha.
Paul s'était remis à tourner en silence. Les paroles d'Idaho lui revinrent.
Durant les premiers instants, étudie. Bien sûr, tu perds ainsi la possibilité d'une victoire rapide, mais l'étude de l'adversaire est une assurance de succès. Prends ton temps.
Peut-être crois-tu que cette danse prolonge ta vie de quelques instants, dit Phaedrotha.
Très bien.
Il s'arrêta, se redressa. Paul en avait assez vu pour avoir une première approximation. Phaedrotha se portait maintenant sur la gauche, offrant sa hanche droite comme si la cotte de maille pouvait protéger tout son flanc. C'était l'attitude d'un homme habitué à combattre avec un bouclier et deux couteaux. Ou, Paul hésita, ou bien la cotte de maille était plus que ce qu'elle semblait être. L'Harkonnen semblait trop confiant face à un homme dont les troupes, ce même jour, avaient triomphé des Sardaukars. Phaedrotha s'aperçut de l'hésitation de son adversaire et lança « Pourquoi retarder l'inévitable ? Tu ne fais que m'empêcher de faire valoir mes droits sur cette boule pouilleuse.
Une aiguille, pensa Paul. Elle est bien dissimulée. Aucune trace sur le corset.
Pourquoi ne dis-tu rien ? Lança Fedrofa.
Paul se remit en marche. Le silence faisait son effet sur Fedrofa. Il eut un sourire glacé.
Tu souris, hein ?
Dit Fedrofa, et il bondit avant d'avoir achevé.
Paul s'était attendu à une hésitation, et il faillit ne pas se dérober à temps devant le coup.
La lame écorcha son bras gauche. Il repoussa la douleur qui jaillit en lui et comprit que la première hésitation qu'il avait notée n'avait été qu'une feinte habile. Son adversaire était plus rusé qu'il ne l'avait cru d'abord. Dans chacune de ses feintes, il devait dissimuler une autre feinte.
« C'est ton Toufi Rawat qui m'a enseigné certains de mes coups, » dit Fedrofa. « Dommage que ce vieux fou n'ait pas vécu assez longtemps pour me voir. »
Et Paul se souvint alors de ce qu'Idaho lui avait dit une fois.
« Ne t'attends qu'à ce qui se passe dans le combat. Ainsi, tu ne seras jamais surpris. »
À nouveau, ils tournaient l'un autour de l'autre, attentifs, le corps ployé. Paul regarda le visage de son adversaire et il eut une fois encore la satisfaction. Fedrofa pouvait-il donc attacher autant d'importance à une simple égratignure ? À moins qu'il n'y ait eu du poison sur la lame. Mais comment était-ce possible ? Ses propres hommes avaient eu la lame entre les mains et l'avaient testée avant de la lui rendre. Ils avaient trop d'expérience pour que ce genre de choses leur échappe.
« Cette femme à qui tu parlais, » dit Fedrofa, « est-elle quelque chose pour toi ? Ton petit animal favori ? Faut-il que je lui réserve des attentions particulières ?»
Paul ne répondit pas. Ses sens internes examinaient le sang qui s'écoulait de l'estafilade sur son bras et découvrirent une trace de soporifique. Paul ajusta son métabolisme afin de repousser la menace et modifia la structure moléculaire du soporifique. Mais il ressentait encore un doute. Ils avaient enduit la lame de soporifique. Un soporifique qui pouvait tromper le goût de poison, mais qui était assez puissant pourtant pour ralentir les muscles. L'ennemi avait ses propres plans gigognes, ses stratagèmes à tiroir. À nouveau, Fedrofa bondit et frappa. Paul, un sourire figé sur ses lèvres, feinta avec une lenteur calculée, comme s'il était sous l'effet de la drogue. À la dernière fraction de seconde, il frappa, et la pointe du Chris rencontra le bras de Fedrofa. Celui-ci se déroba et rompit, le couteau dans la main gauche maintenant, le visage pâle. L'acide mordait la blessure.
Offrons-lui un moment de doute, se dit Paul. Laissons-le croire au poison. Traîtrise, cria Fedrofa. Il m'a empoisonné! Je sens le poison dans mon bras!
Et Paul parla pour la première fois. Ce n'est rien qu'un peu d'acide pour répondre au soporifique sur la lame de l'empereur. Fedrofa, le regard brillant de rage, leva son couteau en une dérision de salut. Paul prit son Chris dans la main gauche et se remit à tourner en silence. Fedrofa se rapprocha, brandissant haut la lame de l'empereur. La colère se lisait dans ses yeux à demi fermés et la ligne de sa mâchoire. Il feinta sur la droite, un peu en dessous, et ils se retrouvèrent l'un contre l'autre, leurs lames liées. Paul obligea son adversaire à pivoter. Il se méfiait de la hanche droite où devait se dissimuler une aiguille empoisonnée. À l'instant où elle pointa, il faillit ne pas la voir. Il fut alerté par un mouvement de Fedrofa, un relâchement de ses muscles, et l'aiguille ne le manqua que d'une infime fraction de centimètre. Elle était sur la hanche gauche. Piège sur piège, se dit Paul. Il utilisa le contrôle Bene Gesserit pour relâcher ses muscles afin de provoquer un réflexe de Fedrofa. Mais essayant d'échapper à la menaçante pointe, il trébucha, tomba sur le sol, et Fedrofa s'abattit sur lui.
« Tu la vois, hein? Là, sur ma hanche » murmura-t-il. « C'est un mort, fou !»
Il roula sur lui-même, et l'aiguille se rapprocha du flanc de Paul.
« Je vais d'abord paralyser tes muscles, puis mon couteau t'achèvera. Et il ne restera pas la moindre trace. »
Tous les muscles de Paul luttaient tandis que, au fond de son esprit, s'élevaient les cris silencieux de ses ancêtres, qui exigeaient qu'il prononce le mot-clé qui freinerait Fedrofa et le sauverait, lui.
« Non, je ne le dirai pas, » souffla-t-il.
Fedrofa le regarda et il eut la plus infime hésitation. Ce qui suffit à Paul pour découvrir la faille dans l'équilibre de son adversaire et pour le faire basculer. Fedrofa se retrouva sous lui, la hanche droite vers le haut, paralysé par l'aiguille qui, sur sa hanche gauche, était maintenant en contact avec le sol. Paul libéra sa main gauche et son geste fut rendu plus aisé par le sang qui s'écoulait toujours de son bras. Puis il frappa Fedrofa à hauteur de la mâchoire. La pointe du Chris se fraya un chemin jusqu'au cerveau. Fedrofa tressaillit et roula, maintenu sur le sol par l'aiguille qui s'y était enfoncée. Respirant à fond pour retrouver son calme, Paul se redressa et se remit sur pied. Debout au-dessus du corps de Fedrofa, sans lâcher son couteau, il leva lentement les yeux vers l'empereur.
« Majesté, votre troupe se trouve réduite encore d'un élément. Allons-nous maintenant cesser de tergiverser et de nous donner la comédie? Allons-nous discuter de mon mariage avec votre fille et de la part de trône qui reviendra ainsi aux Atréides ?»
L'empereur se retourna et regarda le comte Fenring. Et le comte Fenring affronta son regard. Tous les mots étaient inutiles entre eux, car ils se connaissaient depuis si longtemps que leurs yeux parlaient pour eux. « Tue-le pour moi, » disait l'empereur. « Cet Atréide est jeune et plein de ressources, oui. Mais il est également fatigué, et tu n'auras aucun mal à le vaincre. Défie-le maintenant, tout de suite. Tu sais comment faire. Et tue-le. » Lentement, très lentement, Fenring détourna son regard et ses yeux vinrent enfin se poser sur Paul.
« Allez !» dit l'empereur.
Le comte regardait Paul ainsi que sa dame Margot le lui avait enseigné, selon la manière Bene Gesserit. Et il lut le mystère et la grandeur cachée qui habitait ce jeune descendant des Atréides.
« Je pourrais le tuer, oui, » songea Fenring. Et il savait bien que c'était la vérité.
Dans ses profondeurs les plus secrètes, quelque chose alors retint le comte. Il eut la vision brève, inadéquate, de sa supériorité vis-à-vis de Paul. Du côté secret de sa personne, de la qualité furtive de ses motivations que nul ne pouvait pénétrer. Et Paul, par le nexus bouillonnant du temps, comprit cela en partie. Et il s'expliqua enfin pourquoi il n'avait jamais entrevu Fenring dans la trame des avenirs révélés par sa préscience. Fenring était un Kwisatz Haderach possible, qu'une simple faille du schéma génétique avait rejeté. Un eunuque dont les talents étaient furtifs, secrets, cachés. Il éprouva alors une compassion profonde pour le comte, un sentiment de fraternité que jamais encore il n'avait connu. Fenring s'aperçut de son émotion, la comprit et dit
« Majesté, il me faut refuser. »
La fureur submergea Shaddam IV. Il fit deux pas entre ses gens et gifla à toute volée Fenring. Le visage du comte devint sombre. Il leva les yeux, regarda droit dans ceux de l'empereur et déclara avec une tranquillité délibérée « Nous avons été amis, Majesté. Ce que je fais maintenant, je ne le fais que par amitié. J'oublierai votre geste. » Paul s'éclaircit la gorge et dit « Nous parlions du trône, Majesté. » L'empereur se retourna, le regard flamboyant.
« C'est moi qui suis sur le trône » aboya-t-il. « Vous en aurez un autre sur Saloussa Secundus, » dit Paul. « J'ai baissé les bras et je suis venu ici avec votre parole !» cria l'empereur. « Vous osez me menacer !»«
Vous êtes en sécurité en ma présence, » dit Paul. « C'est un Atréide qui vous l'a promis. Mais Mouad Dib, quant à lui, vous condamne à résider sur votre planète prison. Mais n'ayez nulle crainte, Majesté. » J'utiliserai tous les moyens dont je dispose pour que ce lieu soit rendu moins rude. Il deviendra un véritable monde-jardin, tout empli de choses charmantes. L'empereur perçut le sens caché des paroles de Paul et le regarda en grinçant.
« À présent, je discerne vos motifs véritables. »«
Évidemment, » dit Paul.
« Et Arrakis, en ferez-vous un autre monde-jardin plein de choses charmantes ?»
Les Fremen ont la parole de Mouad Dib, dit Paul. Sous le ciel de ce monde, il y aura de l'eau et de vertes oasis, pleines de bonnes choses. Mais nous devons aussi penser à l'épice. Il faudra maintenir du désert sur Arrakis, et des vents violents, des épreuves pour endurcir l'homme. Nous autres Fremen avons une maxime. Dieu a créé Arrakis pour former les fidèles. On ne peut aller contre la parole de Dieu.
La révérende mère Gaius Hélène Mohayam avait lu autre chose dans les paroles de Paul. Elle avait entrevu le djihad et elle dit
« Vous ne pouvez lâcher ces gens sur l'univers. »
« Vous regretterez les manières si douces des Sardaukars, » lança Paul.
« Vous ne pouvez pas !»«
Vous êtes une diseuse de vérité, » dit-il. « Mesurez donc vos paroles !»
Il se tourna vers la princesse royale, puis vers l'empereur. « Le plus tôt sera le mieux, Majesté. » L'empereur, médusé, regarda sa fille. Elle lui toucha le bras et dit d'un ton apaisant
« J'ai été éduqué pour cela, père. »
Il prit une profonde inspiration.
« Vous ne pouvez tolérer cela !»
marmonna la vieille diseuse de vérité. L'empereur se redressa, retrouvant un semblant de dignité.
« Qui négociera en votre nom, sujet ? » demanda-t-il.
Paul se retourna. Il vit sa mère qui baissait les paupières aux côtés de Shiny dans un groupe de Fedaikin. Il s'approcha et s'arrêta devant Shiny.
« Je connais tes raisons, » dit-elle. « S'il doit en être ainsi, Ouzoul. »
Il perçut les larmes dans sa voix, leva la main et toucha sa joue.
« Masihaya n'aura jamais rien à craindre. Jamais. »
Il baissa le bras et se tourna vers sa mère. « Vous négocierez pour moi, mère, avec Shiny. Elle possède la sagesse et un regard acéré. Et l'on dit avec justesse que nul n'est plus dur en affaires qu'un Fremen. Pour moi, elle aura les yeux de l'amour et la pensée de ses fils à venir ne la quittera pas. Écoutez-la. » Jessica devina les froids calculs qui se dissimulaient derrière les paroles de son fils, et elle réprima un frisson.
« Quelles sont tes instructions ? » demanda-t-elle.
« J'exige en dot la totalité des intérêts de l'empereur dans la compagnie des honnêtes Aubert Marchand. »
« La totalité ?»
Elle avait du mal à trouver ses mots. « Il doit être entièrement dépouillé. Je veux le titre de comte et un directorat du Chom pour Gurney Alec, ainsi que le fief de Caladan. Des pouvoirs et des titres seront attribués à tous les gens des Atreides, jusqu'aux plus humbles soldats.
« Et les Fremen ?» demanda-t-elle.
« Les Fremen me concernent, moi, » dit Paul. « Ce qu'ils recevront leur sera donné par Muad Dib. Et tout d'abord, Stilgar sera gouverneur d'Arrakis, mais cela peut attendre.
Et pour moi ?
Y a-t-il quelque chose que vous souhaitiez ?
Caladan, peut-être,
dit Jessica en regardant Gurney.
Je n'en suis pas sûr. Je suis devenue trop semblable aux Fremen. Je suis une révérende mère. J'ai besoin d'une période de paix et de calme pour réfléchir.
Cela au moins vous l'aurez, dit Paul. Et tout ce que Gurney et moi pourrons vous offrir. » Elle hocha la tête.
Elle se sentait tout à coup vieille et fatiguée. Elle regarda Shiny. « Et pour la concubine royale ?»« Aucun titre pour moi, » dit Shiny. « Rien, je vous en supplie. »
Paul rencontra son regard et il la revit soudain avec le petit Leto dans ses bras, leur fils qui avait trouvé la mort dans toute cette violence. « Je te jure, » dit-il, « que tu n'as besoin d'aucun titre. Cette femme, là-bas, sera mon épouse et tu ne seras qu'une concubine parce que ceci est une affaire politique et que nous devons conclure la paix et rallier les grandes maisons du Landsraad. Il faut obéir aux usages. Mais cette princesse n'aura de moi que mon nom. Elle n'aura nul enfant, nul geste, nul regard, nul instant de désir.
« Tu dis cela maintenant, » dit Shiny.
Et par-delà la salle, elle contempla la princesse aux cheveux dorés.
« Connais-tu si peu mon fils ?» murmura Jessica. « Vois donc cette princesse là-bas, si hautaine, si confiante. On dit qu'elle a des prétentions littéraires.
Espérons que cela remplit son existence, car elle n'aura que peu de choses en dehors. » Un rire amer lui échappa.
« Pense à cela, Shiny. Pense à cette princesse qui portera le nom, mais qui sera moins qu'une concubine, qui ne connaîtra jamais un instant de tendresse avec l'homme auquel elle est liée. Alors que nous, Shiny, nous que l'on nomme concubine, l'histoire nous appellera « épouse ».